France Inter, on retrouve Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
Merci Nathalie et bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, jour des enfants, une histoire qui leur est particulièrement destinée, l'histoire des fées. Et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté qui jadis, sur mes beaux sommeils d'enfant gâté, passait, laissant toujours de ses mains mal fermées neiger des blancs bouquets d'étoiles parfumées. Mallarmé. Mille ans d'histoire. Venues du fond des âges, les fées continuent de peupler nos rêves. Diabolisées par le christianisme qui a essayé en vain de faire disparaître ces dernières survivantes du paganisme en les assimilant à des sorcières, les fées ont laissé derrière elles des traces de leur passage dans les noms de lieux, des traditions locales, mais aussi dans ses contes et légendes avec lesquels Perrault, Grimm, Andersen, Walter Scott, James Barry ou Tolkien ont fait rêver des générations d'enfants qui connaissent tous la fée Clochette, la fée Morgane, la fée bleue qui avait donné la vie à Pinocchio, la fée marraine de Cendrillon ou encore cette fée des Lilas qui avait permis à Podane d'échapper à son père qui voulait se marier avec elle.
Alors que conseillez-vous ?
Déguerpir et au plus vite.
Mais le roi me retrouvera, où que j'aille, il me reconnaîtra.
Vous vous déguiserez. Vous allez vous envelopper de cette peau.
Oh, quelle horreur!
Faites ce que je vous dis, tout est prévu à cet effet. Où est ma baguette? Oh. Voici une cassette dans laquelle vous mettrez tous vos habits, votre miroir, votre toilette, vos diamants et vos rubis. Je vous donne aussi ma baguette. Ne vous tourmentez plus, il ne vous arrivera rien de fâcheux si vous suivez fidèlement mes conseils.
Vous croyez ?
Les fées ont toujours raison.
Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements, je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
Marie-Charlotte Delmas, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes une spécialiste des croyances populaires et auteur d'un beau livre sur la trace des fées qui vient de sortir chez Glénat et dans lequel vous rappelez tous les lieux où elles ont laissé justement des traces de leur histoire en France, qui est une histoire qui remonte très loin dans le passé, puisque les fées, dites-vous, sont les héritières des divinités antiques.
Oui, on n'a pas une généalogie très précise des fées, c'est très compliqué parce que les traditions se sont alliées à d'autres traditions et l'imaginaire populaire s'est rajouté là-dessus. Ceci dit, on en trouve dans la plus haute antiquité. Elles sont les descendantes des moires grecques, des parques romaines, puisque le terme de fée vient de Fata, qui est la déesse de la fatalité, dont on retrouve d'ailleurs des traces avec les termes fatidiques, fatalité bien entendu. Donc déesse du destin. Donc oui, je pense qu'elles ont toujours existé.
Ça a donné d'ailleurs des noms très différents, justement, si ça vient de Fatum ou de Fata, le destin, la destinée. Ça a donné Fada, par exemple, dans le midi de la France.
Voilà, c'est-à-dire que les
fées, c'était les Fadas.
Voilà, tous les patois locaux ont repris, évidemment, soit ce terme de fée, soit des termes un petit peu plus spécifiques. Et dans le midi, en Auvergne, en Gascogne, effectivement, c'est ce terme de Fada dont on sait aujourd'hui qu'il veut dire un peu fou.
C'était aussi les korrigans, je crois, en Bretagne, les dames blanches, les dames noires. Il y a vraiment des quantités de noms qu'on donne aux fées, justement, selon les régions.
Il y a des milliers de fées et elles ont toutes des noms spécifiques. Alors, pas très rarement des petits noms. Il y en a quelques-unes à qui on donne un petit nom. Mais elles ont toutes des appellations différentes en fonction des provinces. On est encore là dans les provinces de France.
Alors au Moyen-Âge, elles font un peu l'objet d'un culte. On continue de vénérer les fées comme le faisait les Romains qui pratiquaient des sacrifices, je crois, pour obtenir leur bienveillance. Mais elles font vraiment l'objet d'un culte à peu près au Moyen-Âge.
C'est-à-dire que le christianisme va s'installer à la fois lentement et à la fois violemment. En France et dans d'autres pays, mais en France, là pour l'instant, nous parlons de ce territoire. Et malgré les grands efforts des pères de l'Église, on continue à vouer des cultes aux anciennes divinités du paganisme, dont les fées, effectivement, comme vous le disiez, sont héritières. Cette lutte contre les fées va être extrême, et contre les êtres surnaturels en général, les êtres de la nature, va être très longue.
Et puis on les voit apparaître aussi dans les légendes justement du Moyen-Âge, avec Mélusine ou encore la redoutable fée de la légende du roi Arthur.
J'annonce Morgane la Fée, reine légitime d'Angleterre, et son chevalier servant Modred, seigneur des îles.
J'annonce Arthur Pendragon, duc de Gwent.
Ma demi-sœur, que Dieu vous garde.
Qu'il vous protège, mon demi-frère.
Ayant été mandé par Merlin le Sage, nous sommes venus.
Nous sommes venus en parents, afin d'arrêter les fusions de sang et de rétablir un souverain.
Qui parmi nous prétend au titre de souverain ?
Le fils d'Uther Pendragon est de droit souverain d'Angleterre.
Je suis pourtant le seul enfant qu'Uther ait eu de son mariage. Le roi, mon père, n'a jamais eu de fils de sa reine.
Morgane la Fée est bien son héritier.
Et c'est une musique du compositeur Purcell, La danse des fées. Ce qui est compliqué dans leur histoire, Marie-Charlotte Delmas, c'est que selon les pays, selon les régions, chaque période de l'histoire a des fées différentes. Elles ne ressemblent absolument pas. Il y a des grandes, il y a des petites fées, comme la clochette de Peter Pan. Il y a des fées terrestres, il y a des fées d'eau. Enfin, tout ça, on les voit dans votre livre. Il y a aussi des jeunes, il y en a des moins jeunes. Et puis alors, il y a les bonnes et les méchantes fées, notamment Morgane, qui était réputée être méchante.
Morgane est une fée littéraire, hein, puisque là, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, quand même, avant que les collectages dont on reparlera soient faits au 19e, on n'a qu'une culture savante. Hein, il n'y a pas de culture populaire. Donc, il était de bon ton, par exemple, au Moyen-Âge, d'avoir une fée à l'origine de sa généalogie. C'est le cas de Mélusine. Mélusine était très connue du peuple. Mais on va commander à Jean d'Arras, au 14e siècle, le roman de Mélusine, parce que la famille de Lusignan souhaite avoir une fée comme origine de sa famille. Donc c'est très bien porté. Mais Morgane, Merlin, toute cette histoire est une histoire, Dieu sait s'il y a des fées en Bretagne, des fées populaires, mais là on est dans le domaine de la littérature.
Alors elles font peur aussi, hein, pour beaucoup d'entre elles. Quand je parle de méchantes fées, il y a des fées qui font peur. Elles ensorcellent les hommes aussi. Elles sont capables de tomber amoureuses des mortels, les fées.
Alors, moi, je n'aime pas dire que les fées sont méchantes.
Voilà. Non, vous les aimez bien.
Moi, je les aime bien, les fées.
Quand on vous lit, on s'en rend compte.
Alors, voilà. Donc, moi, je pense que... Je dis qu'il y a des fées sauvages. Mmh. Alors, les fées qui, effectivement, peuvent être vécues comme méchantes parce qu'elles tuent. Il leur arrive de tuer des hommes, sont d'abord des fées topiques, des fées du terroir, des fées qui défendent des lieux sauvages, comme la fée des Vertiges dans les Pyrénées, d'autres fées très solitaires qui vont défendre des marais, qui vont défendre des bois, etc. Alors celles-là, quand on s'aventure sur leur territoire, et la nuit en particulier, puisque la nuit est le royaume des êtres surnaturels, elles peuvent être effectivement redoutables et cruelles par rapport aux autres fées qui sont des fées domestiques, qui, elles, vivent en tribu, ont des maris, des fœtaux, des bébés. Et puis, vous parliez des pousailles entre les fées et les hommes. Curieusement, ça ne concerne que les fées d'eau. Voilà, donc les fées d'eau, on les connaît là aussi depuis la plus haute antiquité, puisque Homère parle des sirènes.
Des fées aussi.
Ah oui, on a des sirènes d'eau de mer, on a des sirènes d'eau douce. Mmh. Il y avait des sirènes dans la Garonne, il y avait des sirènes dans le Gers, on a tout un tas d'histoires des sirènes. Et alors elles, les fées de fontaines, les fées d'étangs, de lacs, épousent des hommes. Effectivement.
Alors il y en a certaines quand même qui sont plus proches de la sorcière que des gentilles fées dont on va parler. On a l'impression d'ailleurs que ça fait partie justement de cette volonté d'éradiquer ces personnages du paganisme, que la religion justement les assimile à des sorcières. Pourquoi avait-elle peur des fées ? Pourquoi le christianisme a-t-il eu peur des fées ?
Le christianisme avait peur du paganisme. Hein. Il a été assez compliqué d'imposer le le Christ. Au VIe siècle, les soldats romains sont encore très appelés par ce dieu perse qui s'appelle Mithra, et il y a une religion très importante de Mithra. Les premiers pères de l'Église le disent, l'écrivent. Il faut absolument se débarrasser de ce paganisme, et donc l'image de la sorcière assimilée à l'image de la fée en double face, vous avez tout à fait raison, ça c'est une volonté des pères de l'Église.
Les fées ont disparu depuis que sonne l'Angélus, hein, ça je crois que ça fait partie on sait ce qu'on disait au Moyen-Âge justement. Cela dit, pas complètement, parce qu'on sent bien aussi que devant la difficulté de faire disparaître ces très vieux cultes des fées, eh bien d'une certaine manière le christianisme a essayé de le récupérer en quelque sorte et de construire par exemple sur des lieux où elles étaient censées se retrouver, où il y avait une espèce de culte des fées, eh bien on construit des monastères. Il y a par exemple un monastère qui s'appelle le Notre-Dame de l'Estérel, je crois, qui était construit près d'une pierre sacrée qui était nommée la Losa de la Fada, hein, la pierre de la fée, en l'honneur justement de la fée qui a donné son nom au massif. Le massif de l'Estérel, c'est le nom d'une fée en fait, l'Estérel.
Oui. Hein? Les fées, elles ont laissé leur nom un petit peu partout. Mais effectivement, ce phénomène de récupération, lui aussi est très clair, a été dit. Je me rappelle que c'est saint Augustin qui dit très clairement « Nous ne parviendrons pas à éradiquer le paganisme, il faut poser partout où il y a des lieux païens, partout où il y a des fêtes païennes, et c'est le cas de Noël par exemple qui a été récupéré, ce sont les fameuses Saturnales romaines, on pose Noël là sans aucune raison, mais on le pose là pour éviter les Saturnales, sous chaque temple on met des églises, chaque dolmen, chaque menhir on met des croix, partout où il y a des fontaines avec des fées on met des saintes, etc. On se met dessus, on se superpose parce qu'un lieu de culte reste un lieu de culte.
Puis il n'y a pas que de mauvaises fées. Il y en a des très, très gentilles, des bonnes fées, hein, comme le sont d'ailleurs la plupart des fées, des contes de fées, bienveillantes avec les enfants. Elles assistent à la naissance, elles sont des fileuses de destin aussi. On retrouve le mot fatum. Et elles sont présentes, elles surveillent un peu l'avenir des enfants. Elles sont même le gage, leur présence est même le gage d'un avenir plutôt pas mal.
Oui, certaines. Alors, on a des collectages partiels, mais en Bretagne, par exemple, où le collectage est très complet, on a des fées marraines, celles qui seront reprises après par la tradition littéraire. On a des fées marraines qui veillent aux destinées des enfants, des fois de façon bienveillante, des fois avec des conditions un peu cruelles.
Il y en a une qui est très célèbre et qui avait permis à Cendrillon justement d'aller à un bal pour laquelle la pauvre Cendrillon n'avait vraiment rien à se mettre.
Allez, sèche-moi vite ces grosses larmes. Il ne va pas aller au bal avec les yeux rouges.
Au bal ? Il n'y a plus de bal.
Si, tu vas y aller. Mais dépêchons-nous, parce que même la magie, ça prend un certain temps.
La magie ?
Regarde. Mais que diable ai-je bien pu faire de ma baguette magique ? Je te porte en certaine...
Une baguette magique ?
Je suis curieuse. Je la mets toujours.
Oh, mais alors vous êtes certainement...
Ta marraine, la bonne fée.
Pipili, pipili, babili, pipili, babili, bam ! Des pantoufles de verre. Oh, c'est comme un rêve magnifique qui se réalise.
Au 12e coup de minuit, le charme sera rompu et tout redeviendra comme avant.
C'était la danse des fées de Grieg à la fin du 19e siècle. Les fées, dites-vous, elles sont très différentes les unes des autres, mais elles ont au moins un point commun, c'est le goût de la danse et de la musique.
Oui, elles font des rondos. Elles font des rondos, de la même façon d'ailleurs que les lutins, de la même façon que les sorcières au sabbat. qui dansait en rondeau. Mais il est extrêmement dangereux de déranger les fées qui dansent des rondes, parce qu'elles vous entraînent dans leurs rondes et elles vous entraînent jusqu'à épuisement. C'est le cas, par exemple, on a de très belles légendes dans le Cantal, où les fées vont tuer deux hommes voilà, qui rentrent dans leur danse.
Oui, parce qu'elles n'ont absolument pas la notion du temps. Il y a une belle légende aussi, je crois, irlandaise, qui est celle d'un jeune homme qui s'appelait Sean, qui était attiré par une musique qu'il écoute sans se rendre compte qu'il l'écoute comme ça indéfiniment. Et quand il rentre chez lui, après avoir écouté cette musique féerique, eh bien, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que sa maison est en ruine et il croise un vieil homme qui a 60 ans de plus que lui et qui était devenu son neveu. Au fond, il avait disparu. C'était dangereux, les danses des fées. Et alors, ça laisse aussi des traces. C'est ce qu'on appelle les ronds des fées, Marie-Charlotte Delmas.
Alors, les ronds des fées, ce sont aussi les ronds de sorcières. Là encore, on retrouve la similitude, effectivement. Alors, selon les régions, ce rond de fées, bien, l'herbe y pousse plus de rue, ou alors, dans une autre province, on le reconnaît parce que l'herbe est piétinée. Et c'est la même chose pour les sorcières. Donc, je me demande s'il n'y a pas une assimilation, là, du clergé. Il faut savoir que, dans certaines provinces, c'est le cas de la Picardie, au sabbat, les fées et les sorcières dansent ensemble.
Il faisait peur, ces ronds des fées, d'ailleurs. En fait, en réalité, je crois que c'est la plupart du temps, c'est des champignons. Vous en parlez au premier degré, comme si vous y croyez vraiment. D'où ça vient, toutes ces croyances, tous ces ronds des fées, tout ce que l'on dit sur elles. Parce qu'on a l'impression qu'elles existent quand on vous écoute, Marie-Charlotte Delmas.
Tant mieux.
Tant mieux.
Il y a, au 19e siècle, à la suite du collectage qu'ont fait les frères Grimm, en France, des collecteurs qui vont s'éveiller, alors dont c'est pas le métier, qui sont juges, qui sont instituteurs, qui ont tout un tas de métiers et qui vont aller collecter de la part chez les vieilles personnes de l'époque, donc des personnes qui ont connu ou qui sont nées au 18e siècle, qui ont des parents qui étaient au 18e siècle, donc dans une culture proche de celle du Moyen-Âge, puisqu'on sait que ça a basculé après, et qui vont recueillir toutes ces traditions, toutes ces superstitions. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui des fées et de l'ensemble, d'ailleurs, des traditions populaires, on le doit à ces hommes qui sont présents, d'ailleurs, dans mon livre, parce que j'ai mis des légendes, et je voulais que leur nom soit là, parce qu'ils sont vraiment mes pères, et c'est un hommage sincère que je voulais leur rendre. Et, bon, il y a des provinces qui ont été beaucoup mieux collectées que d'autres. C'est le cas, par exemple, de la Bretagne et du Pays Basque. Et dans ce cas-là, on a des gestes complètes de fées. Et puis, il y a des provinces ou des pays, à l'époque c'était les pays de France, le pagus gallo-romain, le canton. Et donc il y a des cantons qui sont moins bien collectés et où on retrouve donc des légendes très spécialisées. Et c'est le cas avec les lavandières du Roussillon, par exemple. C'est le cas avec des fées un peu méchantes dans l'Est, les dames vertes de l'Est qu'on retrouve. On n'a pas une geste complète.
Les dames blanches aussi, il y a les dames blanches, c'était quoi?
Alors les dames blanches, ce sont des fées au départ. Mais il faut savoir qu'à partir du moment... À peu près vers la fin du XVIIIe siècle, la croyance aux fées commence à s'arrêter, alors que les lutins vont demeurer une bonne génération de plus. Mais quand la croyance aux fées s'arrête, en fait, les fées ne meurent pas. Elles vont migrer, évidemment, vous l'avez dit, dans les contes merveilleux, dans les contes de fées, mais elles vont migrer aussi dans la famille des revenants. Et donc, c'est typique pour les dames blanches qui sont aujourd'hui encore considérées comme
des revenants. Pourquoi blanches,
c'est ça ? Alors, les fées sont la plupart du temps vêtues de blanc. Elles sont invisibles, elles sont vêtues de blanc ou elles sont vêtues comme, j'allais dire, comme vous et moi, voilà, à la mode du pays. Et puis, troisième famille dans laquelle elles vont migrer, c'est la famille des croque-mitaines. Là, ça veut dire que la croyance est encore vivace, c'est-à-dire qu'on connaît l'histoire de la fée, mais on n'en a plus peur.
Mais vous évoquez là des contes et légendes en France. Votre livre, d'ailleurs, c'est sur la trace des fées en France. Mais vous savez, vous le dites vous-même, que ça existe aussi dans l'ensemble du monde occidental.
Et oriental.
Alors justement, est-ce qu'en dehors de la civilisation occidentale, il y a des fées
Au Japon, il y a des fées, il y a des sirènes, par exemple. J'ai rencontré un spécialiste du folklore japonais cet été. Nous avons parlé des points communs qu'il y avait. D'ailleurs, il étudie en ce moment le comparatisme entre l'Occident et l'Orient. Évidemment, il y en a absolument partout. Ce sont des génies. Ils se situent entre les dieux et les les humains. Mmh. Et donc, il y en a partout.
Alors, ces fées, elles auraient pu disparaître si, justement, il n'y avait pas eu ces collectages, comme vous dites, Marie-Charlotte Delmas, s'il n'y avait pas eu ce travail que vous faites et que font les elficologues. C'est ça, comment est-ce qu'on appelle les spécialistes des fées?
Ah, alors, elficologue, c'est un grand spécialiste, c'est Pierre Dubois qui s'appelle elficologue. Mais le elfe, il n'y a pas d'elfes en France, ce sont des lutins nordiques, les elfes.
Alors, il y a aussi, parmi les choses qui ont permis, justement, que ces fées demeurent, qu'elles ne disparaissent pas, il y a des contes populaires, ceux d'Andersen, de Grimm ou encore de ce romancier italien qui s'appelait Carlo Collodi et dont le nom est beaucoup moins connu que celui du héros de son roman Les Aventures de Pinocchio, la célèbre marionnette de Geppetto à laquelle une bonne fée allait donner la vie.
La fée bleue!
Brave Geppetto, toute ta vie tu as fait tant de bien autour de toi. Tu mérites que ton vœu soit exaucé. Charmant petit pantin de bois, éveille-toi. Je t'accorde le don de la vie.
Mais alors, tu parles?
Oui, la fée bleue est venue.
La fée bleue?
J'ai aussi une conscience.
Une conscience?
Et un jour, je deviendrai un petit garçon, un vrai.
Un petit garçon, un vrai. C'est mon vœu qui se réalise. Oh, on dirait un conte de fées.
Bien sûr, le Pinocchio de Walt Disney que tout le monde a vu au moins une fois, alors que personne ne se souvient du nom de celui qui a inventé le personnage de Pinocchio, qui était Carlo Collodi, donc un Italien, et un de ces auteurs de contes sans lesquels on a l'impression qu'on aurait aussi oublié ce qu'étaient les fées.
Peut-être.
Marie-Charlotte Delmas. Peut-être. Le rôle des contes, d'ailleurs, ils sont plus anciens. Perrault, c'est du 18e et c'est du 17e.
Oui, peut-être. Je pense qu'effectivement, les contes littéraires permettent qu'on se souvienne des fées. Ces contes littéraires, ils ont puisé dans la tradition, évidemment. Ils l'ont, entre guillemets, déformé, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la littérature avec. Mais Perrault, on sait très bien qu'il a puisé beaucoup d'éléments de ces histoires dans la tradition. Et justement... je voudrais dire que ce mot de folklore, puisque là on est dans le folklore, est un très joli mot qui vient de l'anglais, qui s'écrivait d'ailleurs en deux parties, folk et lore, et veut dire connaissance du peuple. Et que d'un côté, on a cet imaginaire absolument extraordinaire du peuple, d'une culture populaire avec des milliers de légendes, d'histoires merveilleuses. Et puis de l'autre côté, on a cette culture savante, cette culture littéraire qui a été puisée dans l'imaginaire populaire.
Dans les croyances populaires. Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas craindre que ces croyances ayant disparu, même si vous en collectez justement ceux qui en restent, au fond, les fées n'allaient pas disparaître avec leurs croyances? Il y a une très jolie formule de l'auteur de Peter Pan, qui s'appelait James Barry, et qui disait, chaque fois que, dans son livre, dans Peter Pan, chaque fois qu'un enfant dit « je ne crois pas aux fées », il y en a une qui meurt quelque part. Au fond, c'est le fruit de l'imagination, mais justement, est-ce qu'on croit encore aux fées? Est-ce qu'on a des raisons d'y croire?
D'une part, dans les raisons de la disparition des fées qu'on trouve dans les contes, il est dit aussi, donc il y a l'Angélus, il y a le fait qu'on n'y croit plus, et il y a la méchanceté des hommes. Et je voudrais, moi, aujourd'hui, que les gens croient aux fées. Et il y a quelques semaines, pour un reportage, j'ai rencontré des jeunes d'un lycée technique professionnel à Bagneux. Et c'était très intéressant parce qu'ils étaient quand même très partagés. Et certains d'entre eux se disaient, oui, non, mais les fées, madame, vous nous racontez un peu n'importe quoi, j'y crois pas, mais bon, quand même, peut-être ça existe et peut-être qu'elles veillent sur nous. Et puis... Puis j'ai quand même beaucoup envie d'y croire. Mmh. Voilà. Donc ça reste, l'image de la fée, elle reste quand même l'image d'une bienveillance à laquelle on peut se rattacher quand on n'est pas bien dans sa vie.
Ça c'est pour les enfants, mais pour les adultes. Vous n'êtes plus tout à fait une enfant, vous êtes encore très jeune, mais vous y croyez tellement à vos fées.
Je les aime. J'ai évidemment une certaine distance par rapport au sujet que je traite, mais c'est vrai que je leur parle souvent. C'est vrai que je me dis que dans la mesure où l'imaginaire nous permet beaucoup de choses, pourquoi ne pas imaginer de jolies choses ? Voilà.
C'est un peu, au fond, une évasion. C'est une façon d'échapper à une actualité qui n'a vraiment rien à compte de fait. Il suffit d'écouter les informations.
C'est vrai que c'est une façon de mettre un petit peu de beauté dans le quotidien, mais un quotidien qui m'intéresse et que je suis de près par ailleurs. Donc, je ne suis pas déconnectée du réel du tout, mais néanmoins, ce monde-là est un monde que j'aime profondément, dans lequel je suis bien. Et vous savez, pour venir à votre émission tout à l'heure avec l'attaché de presse de Glenna, on voulait absolument trouver une place et j'ai dit, écoute, c'est simple, pour trouver une place, il faut s'adresser aux fées. Donc je leur ai dit, allez, il faut absolument nous trouver une place tout de suite. Et on a trouvé une place devant la maison de la radio. Donc vous voyez, évidemment que ça marche, les fées.
Donc elles n'ont pas simplement qu'un passé, hein, comme vous l'avez rappelé.
Elles ont
un présent, elles ont de l'avenir.
Alors. Ah ben, avec moi, oui.
Alors les fées sont encore d'actualité, d'ailleurs peut-être plus que cette chanson de Tino Rossi avec laquelle je vous propose, Marie-Charlotte Delmas, de conclure cette émission. Merci.
Merci à vous.
Un jour, les fées vont revenir et partout la vie va s'embellir. Et dans le cœur des tout petits enfants, elles mettront un peu d'enchantement.
Je rappelle que mon invitée Marie-Charlotte Delmas est l'auteur d'un beau livre sur la trace des fées publié aux éditions Glénat. À lire également l'encyclopédie du merveilleux d'Édouard Brazet qui vient de paraître au Pré-au-Clair, les éditions Clairac aussi qui rééditent les plus beaux contes de fées de Perrault, Andersen et Grimm qui sont vendus par correspondance au 05 53 79 69 51. Vous pourrez retrouver ces références en consultant notre site au 32 30 34 centimes la minute. Vous avez pu entendre des extraits de Cendrillon et Pinocchio, les grands chefs-d'œuvre de Walt Disney, les Chevaliers de la Table Ronde de Richard Thorpe, disponibles en DVD chez Warner, et puis Peau d'âne de Jacques Demy avec Catherine Deneuve et Delphine Seyrig dont on a reconnu la voix et qui est disponible en DVD chez Paramount. C'était 2000 ans d'histoire à la baguette Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, les lutins Claire Tesser, Camille Pouc-Jalaguier et Mathieu Ménossi et notre bonne fée, notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, la chasse à la baleine, mais tout de suite il est 14h30, il est temps pour nous de donner la parole à Eric Oswald, sinon le charme des fées va disparaître et notre carrosse va se transformer en citrouille, n'est-ce pas Eric Oswald ? Et hop, on disparaît. Salut.